Donc bonjour à tous. Je suis heureux ce matin de pouvoir témoigner que j'ai un ami déjà qui... Enfin, le Seigneur est déjà en train de travailler, son esprit est déjà à l'œuvre. Et donc hier matin, j'ai reçu un texto de mon ami Mathieu. Donc Mathieu, cet ami, j'ai fait de la colocation avec lui quand j'étais à Paris. Et donc j'ai pu témoigner de ma foi, il a vu, ben, on a vécu ensemble, donc on se connaît maintenant. Et là, ce texto me disait qu'il avait vraiment cette soif de paix, et il avait vraiment senti que quelque chose s'était passé en lui. Et moi, je prie pour tous mes amis qui sont à l'extérieur du château. Je prie pour eux et pour qu'ils puissent recevoir la vérité, le Seigneur Jésus. Et là, ce matin, hier matin, je reçois ce texto de Mathieu qui me dit qu'il a ressenti quelque chose venir près de lui et qu'il ne savait pas comment l'expliquer, il ne savait pas d'où ça venait, mais qu'il il ressentait que c'était près de lui. Et donc, Je lui ai partagé donc de faire la démarche d'aller maintenant vers Dieu qui s'était approché de lui et d'aller donc je lui ai conseillé de lire la Bible et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Enfin, il est enthousiaste aussi et je suis très content de partager cette bonne nouvelle avec vous. Voilà, que Dieu soit béni.
Merci pour ton message, merci Olivier pour ton témoignage, merci pour les chants. C'est bien. Nous allons prier d'abord pour une famille, la famille Duval. C'est la famille de Raphaël et Violette. Il y a quelqu'un qui a téléphoné ce matin pour demander la prière pour deux personnes. Et on va te prier pour eux. Amen. Tu as leur nom, chérie? Les noms, tu les as? Janine, et puis c'est le frère de la sœur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta fidélité et nous te prions maintenant pour ces deux personnes qui ont demandé l'intercession. Nous te demandons, Père, d'étendre ta main sur eux pour qu'ils soient délivrés et guéris. Que ces cancers disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que cette vessie soit maintenant purifiée au nom de Jésus-Christ et que tout esprit de mort sorte de là. Au nom de Jésus-Christ, que ces personnes soient guéries, je le veux. Merci Seigneur, merci de bénir cette parole d'autorité, mon Dieu. Amen. Amen. Restez debout, on va lire Marc, chapitre 12, versets 29-31. C'est Jésus qui parle et qui dit, « Voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Amen. Fais asseoir. Je vous disais vendredi que sur Internet, on trouve des choses extraordinaires et j'ai trouvé un sermon de Martin Luther King, à ne pas confondre avec Martin Luther, le réformateur des années 1500. Mais Martin Luther King, vous savez, le pasteur américain noir, et en mai 1966, il a fait un discours, et dans ce discours, il a raconté une histoire que je vais vous raconter aussi. C'est une histoire, paraît-il, très connue aux États-Unis, qui parle au cœur de beaucoup de monde, parce qu'on raconte ça aux enfants, on raconte ça à tout le monde. C'est l'histoire d'un homme du nom de Rip. Cet homme... Il était maître en deux choses. Il était maître pour éviter le travail et maître aussi pour éviter sa bonne femme qui lui... elle avait des problèmes. Il arrivait à éviter. Et un jour, il se balade à quelques kilomètres de son village et il rencontre là plusieurs hommes habillés bizarrement qui l'invitent à boire un pot avec eux. Donc ils sont assis dans une prairie puis... Il est là, lui, avec son chien, en train de se balader. Il s'arrête avec eux, puis commence à boire un verre d'alcool avec ces gens-là qu'il ne connaît pas. Et puis, au bout d'un moment, il sent ses paupières s'alourdir. Il a envie de dormir. Alors, il ferme les yeux et il s'endort. Soudain, il se réveille. Il se réveille, alors il a un petit choc, un gros choc. son chien n'est plus là, les gens qui lui avaient servi à boire ont disparu, et puis son fusil est à côté de lui, mais il est tout rouillé. Et puis lui, il s'aperçoit qu'il a une grande barbe blanche. Il se demande ce qui se passe. Alors, il se lève, il s'aperçoit qu'il a un peu mal dans le dos. Il marche, il va jusque dans son village, et là, il s'aperçoit qu'il ne connaît plus personne. Il y a plein de gens, mais il ne les connaît pas. Il se dirige vers sa maison, et elle est habitée par des gens, et on lui apprend que sa femme est morte. Il va dans le bistrot, la taverne du bled, et là, dans la taverne du bled, il y a plein de gens, mais il ne les connaît pas. Et puis, surtout, sur la cheminée, dans ce bistrot, il y avait toujours le portrait du roi George III qui trônait là, et il n'y est plus, c'est un autre portrait d'un autre bonhomme qu'il ne connaît pas, il ne sait pas, et il demande c'est qui, alors on lui dit ben, c'est le général George Washington. Rip a dormi 20 ans. 20 ans. Et il a raté une des périodes les plus passionnantes de l'histoire de son pays. Il a dormi pendant la guerre d'indépendance. Martin Luther King raconte cette histoire pour illustrer son discours qui avait pour titre « Ne dormez pas pendant la Révolution ». Je vais parler du même thème ce matin et poser la question à vous qui êtes nés de nouveau, à vous qui êtes des sujets du roi des rois, à vous qui êtes un peuple de sacrificateurs, un peuple d'enfants de Dieu, prêtres, êtes-vous en train de dormir pendant le rétablissement? Je visite pas mal d'églises et je peux vous dire que les chrétiens, en général, considèrent que le rétablissement de l'évangile est quelque chose qui est derrière nous, que c'est fait. Nous avons Luther qui a rétabli le salut par la foi. Nous avons Wesley qui a rétabli la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous avons Branham qui a rétabli les 9 dons spirituels, la prêtrise, l'unité de Dieu, le baptême correct. Nous avons le rétablissement maintenant chez nous de la vie communautaire. Nous avons le rétablissement du baptême pour les morts, le rétablissement du scellement des mariages éternels. Et beaucoup se sont arrêtés loin derrière, hein, dans la sanctification. Ils sont arrêtés du temps de Wesley. D'autres, ils sont arrêtés au baptême par immersion. D'autres ont été un peu plus loin, ont compris que le baptême par immersion se fait d'une certaine manière et pas d'une autre. D'autres ont été plus loin, ils sont bénis par la restauration des dons spirituels et beaucoup pensent que le plein évangile a été rétabli. Dernièrement, une femme mormone me disait « Mais pourquoi vous nous pourquoi est-ce que vous nous rejoignez pas? Nous croyons la même chose que vous. » Je dis « Je suis désolé, je ne crois pas la même chose que vous. Je crois la parole de Dieu en entier, du moins dans ce qui est révélé à l'heure actuelle. Nous vivons en communauté, je ne peux pas arrêter de vivre en communauté pour aller poser mon derrière dans une église tous les dimanches comme vous. » Ça leur fait tout drôle. Parce que leur prophète leur a dit qu'à la fin des temps, ils devraient vivre en communauté. Beaucoup pensent que ce rétablissement dont parle acte 3:21 est quelque chose qui est déjà derrière nous, que c'est fait. Ce rétablissement, il doit avoir lieu au temps du rétablissement. Le temps du rétablissement de toutes choses doit avoir lieu juste avant le retour glorieux de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, en réalité, le rétablissement, c'est un processus qui est encore en cours. Nous vivons en ce moment le processus du rétablissement de toutes choses. Il comprend tout ce que Dieu a révélé, il comprend tout ce que Dieu révèle maintenant, et il comprend tout ce que Dieu va encore révéler. Frères et sœurs, l'événement actuel fait partie de la préparation prédite depuis longtemps par les prophètes et qui trouvera son aboutissement au moment de la seconde venue de Jésus dans la gloire. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, nous sommes encore dans le temps du rétablissement de toutes choses. Et nous devons marcher avec la colonne de nuée Le jour est une colonne de feu, la nuit. C'est une période, une des périodes les plus remarquables de l'histoire de l'Église et du monde aussi. Parce que Dieu n'est pas en train de rétablir toute chose seulement dans son Église, mais aussi dans le monde. Les prophètes d'autrefois ont véritablement aspiré à voir notre époque. Ils ont désiré voir notre époque. C'est nous qui la voyons. Avec les prophètes vivants d'aujourd'hui. Les prophètes, quand ils vivaient autrefois, personne ne les croyait, ou très peu. Aujourd'hui, quelle sorte de personne vous êtes? De ceux qui croient les prophètes d'aujourd'hui ou pas? Quand notre temps ici-bas sera terminé, on va se trouver devant notre Dieu, avec nos familles, avec nos frères et sœurs, avec tous ceux qui auront marché fidèlement avec Dieu. Quelles expériences pourrons-nous raconter concernant notre contribution, concernant cette période importante de notre vie et de l'avancement de l'œuvre du Seigneur, notre contribution dans cette chose-là, du rétablissement? Qu'est-ce qu'on pourra dire là-dessus? Pourrons-nous dire que nous avons retroussé nos manches? Pourrons-nous dire que nous avons travaillé de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre esprit, de tout notre pouvoir? Ou est-ce que nous devrons admettre que notre rôle s'est limité à être celui d'un observateur? Je vois qu'il y a toutes sortes de raisons pour tomber dans la somnolence quand il s'agit d'édifier le royaume de Dieu. Je voudrais vous en donner trois principales ce matin. En m'écoutant ce matin, demandez-vous si une de ces trois raisons n'est pas votre raison. Si vous voyez des possibilités pendant que je prêche, des possibilités d'amélioration, je vous demande d'y réfléchir et de réfléchir à ce qui pourrait faire chez vous un changement pour le mieux. On n'est pas réunis ici juste pour se réunir ici. Tout d'abord, il y a l'égoïsme. L'égoïsme. L'égoïsme, il se voit dans les toutes petites choses. Mais ceux qui sont égoïstes dans les petites choses le sont aussi dans les grandes. Les personnes qui sont égoïstes recherchent par-dessus tout leur intérêt. Ils recherchent leur plaisir personnel. Un peu comme ce bonhomme qui évitait toutes les contraintes. La question centrale que se pose une personne qui est égoïste, c'est: qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en tirer? Ou qu'est-ce que je peux faire pour éviter les contraintes? Quelle excuse je vais trouver? Mes frères et sœurs, je sais que vous comprenez que cette disposition-là, eh ben, elle est nettement contraire à celle qui est requise pour édifier le royaume de Dieu, l'égoïsme. Quand nous recherchons à servir de façon intéressée, on fait les choses parce qu'on y trouve un intérêt, eh bien, quand on cherche comme ça à faire les choses simplement parce qu'on a intérêt, au détriment du service désintéressé, eh bien, nos priorités se concentrent sur nos avantages et pas sur l'avantage de l'Église de Jésus-Christ. On n'est pas en train de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Et il ne faut pas venir me dire que vous allez aller, comme notre frère Francis disait, il faut aller prêcher l'Évangile. Ça, c'est la plus grande des belles choses à faire et c'est un commandement de Jésus à ses disciples. Mais il ne faut pas me dire que vous allez le faire si vous ne commencez pas déjà dans des petites choses, servir vos frères et sœurs. Quand on regarde l'histoire, on voit que les générations passées ont dû affronter diverses formes d'égoïsme. Lisez l'histoire, vous verrez, mais je crois qu'actuellement, eh bien, on leur fait sérieusement concurrence, qu'on est vraiment au siècle de la communication dans un égoïsme, alors quelque chose de phénoménal, phénoménal. Vous savez que aux États-Unis, le dictionnaire, je ne m'en rappelle plus le nom du dictionnaire, mais c'est le plus grand dictionnaire, si vous voulez, c'est un petit peu comme le Larousse ici, ou... Pardon ?
Universaliste.
Oui, peut-être c'est ça, oui. Ils ont décrété que le mot numéro 1 de l'année, et ce n'est pas une coïncidence, hein, c'est le mot selfie. Vous savez ce que c'est, selfie ? On se prend photo comme ça. Selfie. Ce n'est pas une coïncidence. Nous avons tous le désir naturel d'être reconnus. On a tous le désir. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à se détendre, à s'amuser un peu. Il n'y a pas de mal. Mais lorsque la recherche du gain personnel, lorsque la recherche de la louange des gens est au cœur de notre motivation, alors nous perdons les expériences magnifiques qui sont données à ceux qui s'occupent premièrement du royaume de Dieu, de l'œuvre du Seigneur. Alors, quel est le remède? La réponse, comme toujours, eh bien, c'est dans les paroles de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, esquiver les problèmes pour sauver sa vie, esquiver les problèmes pour sauver son temps, pour aller faire quelque chose qui lui plaît à lui. Car celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. Si. Les personnes qui consacrent sans réserve leur vie à notre Sauveur servent Dieu et leurs semblables. Ils découvrent une richesse et une plénitude que les égoïstes ne connaîtront jamais. Ils n'en soupçonnent même pas l'existence. Les personnes désintéressées donnent d'elles-mêmes, n'est pas obligé de courir derrière, faire des lois pour que les gens fassent les choses. Quand on est obligé de faire des lois pour que les gens fassent les choses, c'est qu'il y a des égoïstes. Quelqu'un qui est désintéressé, il donne de lui-même. Alors, ça peut être des toutes petites choses, un petit cadeau. Pour faire plaisir, un sourire, une poignée de main, une accolade, un peu de temps qu'on passe pour écouter, une parole qui rassure, un geste sympathique d'attention, comme par exemple débarrasser la table. Tous ces actes de gentillesse peuvent changer les cœurs, mes frères et sœurs. Vos cœurs et le cœur des autres aussi, parce que vous dites, je n'aime pas. Ben évidemment, personne n'aime les égoïstes. Je dis, je les aime pas. C'est difficile. On les aime parce que la Bible dit aime-les, mais on ne cherche pas leur compagnie, franchement. Alors, d'être quelqu'un qui choisit d'entrer dans ce don de sa vie pour les autres, pour Dieu, quand nous choisissons les occasions illimitées d'aimer, de servir nos semblables, notamment premièrement notre femme, notre mari, nos enfants, ceux de notre famille, nos frères et sœurs, ça augmente notre capacité d'aimer Dieu. Parce que ce n'est pas vrai qu'on aime les frères et sœurs, qu'on aime Dieu et qu'on veut le servir et qu'on ne veut pas servir nos frères et sœurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les personnes qui servent les autres ne sont pas en train de dormir pendant la Révolution. Les personnes qui servent les autres ne sont pas en train de dormir pendant le rétablissement. Une autre chose qui peut nous mettre en état de somnambulisme pendant cette période importante, c'est les dépendances. Une dépendance, elle commence généralement d'une façon un peu sournoise. Un esprit de dépendance, ça va venir « Coucou, c'est moi l'esprit de dépendance », ça serait trop facile. Et c'est un ensemble de fils très fins, n'est-ce pas, d'actions qui se répètent et qui se tissent entre eux et qui, à la fin, forment une corde terrible, un câble d'habitude. Ça, je me rappelle, c'était Anthony Robbins qui parlait très, très bien de ça. C'était impressionnant pour ceux qui ont été écoutés une fois Anthony Robbins. C'était fantastique. Les mauvaises habitudes, elles ont un potentiel de devenir des dépendances dévastatrices. Ces chaînes de la dépendance peuvent avoir de nombreuses formes, l'alcool, la pornographie, la drogue, le tabac, le jeu, la nourriture, le travail, la paresse. Alors le diable, je n'aime pas beaucoup parler de celui-là, mais enfin bon, le diable, notre ennemi commun, il a beaucoup d'outils efficaces à sa disposition justement pour nous priver de notre potentiel divin qui nous permet d'accomplir notre mission, le pourquoi nous sommes là, comme disait notre frère Francis, pourquoi on est là? On est là pour servir Dieu, servir nos frères et sœurs, pour montrer que la bonne nouvelle du salut, ce n'est pas simplement une philosophie, mais c'est quelque chose qui nous a changé. Eh bien, ça attriste notre Père Céleste quand il voit avec quel empressement quelques-uns de ses nobles fils et nobles filles tendent les poignets pour accepter, n'est-ce pas, les chaînes de la dépendance dévastatrice. L'autre jour, on est allé chez Mickey avec les enfants et j'ai offert à mon petit-fils une étoile de shérif et aussi des menottes. Alors, il a été partout pour mettre les menottes à tout le monde. Seulement, c'est des menottes pour les enfants. Et quand il a vu les poignets des adultes, il a vu qu'il ne pouvait pas. Le diable, il peut mettre des menottes à tout le monde. Hein. C'est facile pour lui. C'est différent. Frères et sœurs, nous détenons la prêtrise. La prêtrise éternelle du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Nous avons été conçus pour pouvoir librement voler dans les cieux et non pas pour être enchaîné au sol, prisonnier d'une camisole de force qu'on a tissée soi-même. On n'a pas été conçu pour ça. Alors quel est le remède? Le remède, la première chose à comprendre, c'est que déjà premièrement, il est plus facile de prévenir une dépendance que d'en guérir. Ça, c'est sûr. C'est difficile de guérir d'une dépendance. Jésus a dit, ne permettez à aucune de ces choses d'entrer dans votre cœur. Une fois qu'on a commencé, c'est une délivrance qui peut prendre du temps, avec des rechutes. Mes frères et sœurs, quand nous sommes tentés de faire quelque chose que nous ne devons pas faire, imaginez la voix de votre épouse, ou de votre mari, ou de vos enfants, ou de vos amis bien-aimés, en qui vous avez confiance, qui vous diraient, mais t'es en train de faire quoi là? Ou de votre Seigneur qui vous dit, mais tu es en train de faire quoi là? Ça refroidit quand on imagine ça. La meilleure protection contre la dépendance, c'est de ne pas commencer, ça c'est sûr. Mais alors, qu'en est-il de ceux qui sont déjà la proie d'une dépendance ou de plusieurs dépendances? Eh bien, d'abord, premièrement, sachez d'une façon absolue qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Cherchez l'aide de vos proches, de ceux en qui vous avez confiance, de ceux qui peuvent comprendre, de ceux qui ne vont pas être épouvantés et détruits en comprenant que vous avez une dépendance qui est tout à fait reluisante. Mais allez trouver, par exemple, un responsable de l'Église, allez trouver quelqu'un qui est... Ou alors, s'il le faut, allez trouver un thérapeute. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Le Seigneur va se servir de tous ces gens pour vous aider à vous délivrer de la dépendance. Le chemin, ça peut être long. Ça peut être difficile, mais Jésus vous délivrera si vous voulez vous en sortir. Si vous comprenez pourquoi vous devez vous en sortir. Jésus, il a souffert à la croix pour vous libérer du péché. Alors, bien sûr, il peut vous libérer d'un coup de baguette magique, mais ça, c'est un petit peu facile, ça. Ça, c'est dans ces églises un peu superficielles où on pense qu'on a été pendant 4 ans, 5 ans, dépendant d'un truc, il suffit de venir 3 secondes à l'imposition des mains pour être délivré d'un truc. Ça, c'est de la magie, c'est Harry Potter, excusez-moi. Mais je pense qu'il faut être un petit peu plus intelligent que ça. Il faut comprendre que c'est un travail, c'est une désintoxication. Je pense qu'il n'est pas honteux d'aller voir un thérapeute formé pour cela, pour vous libérer de cette captivité. Le plus important, c'est que vous décidiez de ne pas arrêter sur ce chemin de la délivrance. N'abandonnez pas, ne perdez pas la foi, ne dites pas « j'y arrive pas ». Que votre cœur reste toujours près du Seigneur, contrit, brisé, repentant, tout près du Seigneur, et vous donnera le pouvoir de vous libérer. Il le fera. Mais il faut que vous soyez constant dans votre recherche. Il vous rendra libre. Éloignez-vous aussi de ce qui peut vous remettre dans la dépendance. N'allez pas dans les endroits où ne vous trouvez pas en face d'eux, ou ceci ou cela, de ce qui vous rend dépendant. Je vous dis, devant Dieu, ceux qui feront ainsi pourront consacrer leur esprit, leur force, leur âme, tout leur pouvoir au service de Dieu et au service de leurs frères et sœurs. Les autres continueront à esquiver et finalement tomber pendant 20 ans à dormir. Et rater le plus beau moment de l'histoire, l'histoire du rétablissement de toutes choses. Pendant cette époque si spéciale que nous vivons, celle du rétablissement annoncée par les prophètes d'autrefois, nous devons prendre conscience que Jésus a parlé du sommeil. Il a dit « les vierges folles, les vierges sages dormiront ». Ceux-là ne dormiront pas comme Rip pendant le rétablissement. ceux-là qui écouteront ce que je leur dis ce matin de la part de Dieu. Le troisième obstacle qui nous empêche d'entrer dans cette œuvre du rétablissement sont les nombreux conflits de priorité que nous rencontrons sur cette terre. C'est un petit peu comme... Il y en a qui doivent se sentir un peu comme une espèce de charrette qui serait attelée à divers animaux et puis tous ces animaux tirent chacun dans son sens. Alors évidemment, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Il y en a qui tirent là, il y en a qui tirent. Mais la charrette, elle ne bouge pas. Beaucoup d'énergie pour rien. Beaucoup de temps passé, mais pour rien. Pour rien, la charrette ne bouge pas. Mes frères et sœurs, ne perdez pas votre temps et votre énergie pour des choses qui ne demeureront pas éternellement. Jésus dit, pourquoi vous travaillez pour ce qui périt? Occupez-vous des choses qui ne périront pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Quel est le remède? Alors une fois de plus, il se trouve dans la parole de Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes les choses de notre vie devraient passer après ces deux priorités. Toutes les choses de notre vie devraient passer après ces deux priorités. Dans l'Église, dans la communauté, ne faites pas les choses machinalement. Mettez-y votre cœur. Mettez-y la substance qui fait de vous un disciple, votre amour. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais, on chante. Les personnes qui suivront ces principes sont les personnes qui ne seront pas en train de dormir pendant le rétablissement de toutes choses. L'apôtre Paul écrit, et je me rappelle que c'était le verset favori de notre sœur Camélia, elle le disait au moins une fois par jour. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Réveille-toi, ne demande pas à Dieu de te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Frères et sœurs, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes des filles et des filles de lumière. Ne vous laissez pas aller à l'égoïsme, ne vous laissez pas aller à des habitudes qui peuvent vous conduire à des dépendances, ne laissez pas d'autres priorités vous bercer afin de vous rendre indifférent ou détaché de la condition bénie d'un disciple ou des services anoblissants de la prêtrise. Ne vous laissez pas endormir, bercer ou tirer à gauche, à droite par toutes sortes de choses que vous pensez être très importantes alors qu'elles ne le sont pas. L'enjeu, c'est très important pour vous et pour nous tous. Rappelez-vous Élie qui prêchait, puis ça ne marchait pas, les gens n'écoutaient pas, il est tombé dépressif, le pauvre. Quand les gens n'écoutent pas, les autres en ressentent de la peine. Les efforts pour être disciples de Jésus-Christ ne s'accomplissent pas une fois par semaine, en venant poser son derrière dans l'église. Ou une fois par jour, en faisant notre petite prière le matin à l'autel. Sur notre autel. Non. Les efforts pour être un disciple de Jésus-Christ sont des efforts que nous avons décidé de faire une fois pour toutes et nous y sommes engagés. Alors si vous vous êtes endormi, réveillez-vous. Relevez-vous d'entre les morts et Christ vous éclairera. Frères et sœurs qui sont fidèles, des frères et sœurs qui sont fidèles à la prêtrise et qui magnifient leur appel, sont vraiment mis à part par l'Esprit à tel point qu'ils sont renouvelés. Renouvelés. C'est pourquoi tout ce que le Père a, ça leur sera donné. C'est vrai, mes frères et sœurs. C'est notre devoir sacré d'écouter l'appel de notre Sauveur. C'est un devoir sacré que de suivre avec un esprit bien disposé et un cœur pleinement résolu. Regardez ce que signifie le mot résolu. dans le dictionnaire. Demandez-vous, suis-je résolu? Alors, je vous invite, vous qui êtes sur Internet, ou vous qui regardez à la télé, ou vous qui êtes ici ce matin, de secouer les chaînes qui vous lient, de les secouer, de sortir de l'obscurité, de vous lever de la poussière, de vous relever d'entre les morts, de vous relever de votre sommeil, de sortir de là, de vous réveiller, de ne pas vous laisser aller simplement comme ça. Ne nous lassons pas de faire le bien, mes frères et sœurs. Ne nous lassons pas, car nous sommes en train de poser le fondement de la plus grande merveille qui s'est jamais produite sur la terre, que le ciel s'ouvre du nord au sud, ou de l'est à l'ouest, pour laisser Jésus venir apparaître sur les nuées, pour venir nous chercher. Nous sommes en train de poser les fondements de cela quand nous nous occupons premièrement des choses du royaume de Dieu et de sa justice, c'est-à-dire en ce moment c'est le rétablissement de toutes choses. Si on ne s'occupe pas de cela, eh bien nous sommes en train de dormir, nous n'avons pas conscience que Jésus revient, il ne reviendra que lorsque ces choses seront faites. Faisons-les, entrons là-dedans, même si on ne comprend pas, entrons par la foi. Qui peut dire qu'il a tout compris au sujet du salut le premier jour? Rien. Moi, je me suis fait baptiser, je n'avais rien compris. Après, je me suis fait baptiser en 68, ce n'est qu'en 75, à l'école biblique, lors d'un cours, que j'ai compris qu'est-ce que c'était la signification du baptême. J'avais juste compris que c'était une obéissance, c'est tout ce que j'avais compris. Je n'avais rien compris d'autre. Mais je l'ai fait parce que j'ai compris que c'était dans les Écritures. Secouez-vous! Amen! Je veux voir des gens qui s'inscrivent pour le baptême pour les morts. C'est toujours les mêmes qui le font. Je veux voir des nouvelles personnes qui s'inscrivent pour cela. Sérieusement. Sinon, vous allez lasser les autres. C'est toujours les mêmes qui font. Nous sommes en train de préparer le retour de notre Sauveur, mes frères et sœurs. Comme Jean-Baptiste préparait la venue du Sauveur. Nous sommes de ceux qui ont l'esprit d'Élie, qui reprennent la voix de l'esprit d'Élie et qui sont les super envoyés, l'archange qui doit précéder le son de la trompette pour que Jésus revienne. Et lorsque vous ajoutez la lumière de votre exemple, mes frères et sœurs, au pouvoir de la vérité qui est rétablie, vous n'êtes pas en train de dormir pour le rétablissement. Vous n'êtes pas en train de dormir. Là, vous êtes des acteurs des choses qui se passent. Qui voudrait être Dathan au temps de Moïse? Vous vous rappelez Dathan? Personne. Qui voudrait être Judas? Personne. Ne soyez pas timorés. Avancez en pleine eau. C'est risqué, c'est vrai, c'est risqué. Mais avancez. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à le faire réellement. Pas seulement les vieux, les jeunes aussi. Occupez-vous de ces choses. J'en témoigne maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous donne ma bénédiction. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et que les choses changent. Merci mon Dieu. Amen.